Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne ferai aucun triomphalisme. Parce que quand on est encore autour de 8% de chômage, la bataille n'est pas gagnée.
Le chômage à son plus bas niveau depuis 12 ans, pas de triomphalisme donc, mais le gouvernement estime qu'il peut réussir son pari et l'amener à 7% d'ici 2 ans.
Est-ce réaliste? Les réponses d'Emmanuel Duteil en quelques secondes et la ministre du Travail, vous l'avez compris, Manuel Pénicaud à 18h20.
A-t-on sous-estimé l'ampleur de l'épidémie? La Chine dit-elle tout du coronavirus? Pékin revoit son bilan à la hausse. Nous passons ce soir le coup de fil du 18h au virologue Bruno Lina.
Dans ce journal également les détails du grand oral, nouvelle épreuve du baccalauréat. Pas facile. Est déjà critiqué.
Sans note et debout, on peut déstabiliser certains jeunes par ces obligations. Je ne vois absolument pas la nécessité. Ouais.
De nouvelles négociations sur les retraites, pas d'avancée sur la pénibilité, mais des annonces sur le mode de calcul.
Et puis l'hommage aux victimes de Furiani, il n'y a plus aucun match de foot professionnel le 5 mai.
C'est une grande satisfaction, un soulagement. Enfin, on va pouvoir commémorer la tragédie de Furiani comme il se doit.
La bourse de Paris en léger recul ce soir de 0,19% à 6 093 points.
Et du côté du ciel, bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. De bonnes nouvelles ce soir puisque demain, c'est une journée un peu plus calme qui s'annonce avec beaucoup moins de vent, beaucoup plus de soleil et tous les détails de ce vendredi dans le ciel à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'embellie du chômage se confirme donc, 8,1% fin 2019, après une baisse particulièrement nette au quatrième trimestre. La France compte donc 2 400 000 chômeurs, niveau le plus bas depuis 12 ans. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Voilà donc pour les chiffres qui font dire au gouvernement que sa promesse de ramener le chômage à 7% à la fin du quinquennat dans 2 ans est atteignable. Est-ce réaliste?
Oui, c'est atteignable, mais attention, hein. Atteignable, ça ne veut pas dire que c'est assuré. Alors pourquoi déjà c'est atteignable? Eh bien parce que la France crée des emplois et ça permet de faire baisser le taux de chômage. Et bonne nouvelle, on a moins besoin aujourd'hui qu'il y a quelques années de création d'emplois pour faire reculer le chômage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de moins de personnes qui entrent sur le marché du travail. Et si on crée des emplois, c'est parce que la croissance s'est plutôt bien tenue ces dernières années, et notamment l'année dernière. Il faut ajouter à cela les mesures du gouvernement, notamment sur l'apprentissage qui commence à porter leurs fruits. Un signe, hein, dans plus de 20 départements, le taux de chômage est déjà sous la barre des 7%. Vous avez même des départements qui sont quasiment en plein emploi. On peut citer la Mayenne, on peut citer le Cantal. Malgré tout, le gouvernement n'y est pas encore. En effet, la croissance donne là des petits signes de faiblesse. Au quatrième trimestre, il y a même eu un très gros trou d'air. Et les doutes sont réels pour l'avenir à cause du coronavirus ou par exemple des guerres commerciales. Donc, sans être totalement à 7%, tout porte à croire que l'on ne devrait pas, malgré tout, être très loin de ces 7%. Si tout ne va pas trop mal d'ici à 2022.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, de l'optimisme donc quand même affiché ce soir et notamment du côté du gouvernement. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, répondra à mes questions à 18h20 dans ce studio.
Et cette baisse du chômage, le président de la République Emmanuel Macron vient de s'en réjouir.
C'est une très bonne nouvelle. Moi je note qu'en effet la baisse qui a été vécue et observée l'année dernière permet de montrer qu'il y a une efficacité des politiques qui sont conduites. Je crois avec les différentes mesures qui ont été prises de flexi-sécurité, de réforme de l'assurance chômage, avec les mesures qui ont été prises en faveur de l'apprentissage, de l'alternance, ben, on commence à avoir des résultats. Donc il faut poursuivre l'effort. Moi je ne ferai aucun triomphalisme. Parce que quand on est encore autour de 8% de chômage, la bataille n'est pas gagnée. Donc je continue à avoir beaucoup plus d'ambition que rester à 8%, je vous le confirme.
Emmanuel Macron au micro d'Adrien Beck, c'était en marge de son déplacement en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc ce matin, pour constater en tenue de ski le recul de la mer de glace. Volontarisme affiché du président sur l'environnement, c'est le combat du siècle, dit-il.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h04, la suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'épidémie de Covid-19, le coronavirus, est-elle sous-estimée? La question soulevée ce soir après un bond spectaculaire du nombre de contaminations en Chine.
Et c'est notre coup de fil du 18h, bonsoir Bruno Lina.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes professeur de virologie à Lyon, grand spécialiste des maladies infectieuses. Il y a eu 15 000 nouveaux cas annoncés en Chine en 24 heures, 254 décès de plus. Plus forte augmentation journalière jamais connue. Pékin dit avoir changé son calcul et ça interroge. Est-ce que vous avez le sentiment que la Chine ne dit pas tout de ce virus?
Non, en fait, la Chine est en train d'affiner un petit peu le calcul finalement de nous donner des éléments qui sont peut-être un tout petit peu plus robustes par rapport à la réalité de l'épidémie là-bas. Vous savez qu'au départ, on a pensé que cette infection donnait essentiellement des formes très graves. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des formes qui étaient graves et modérées. Et petit à petit, on est en train de voir qu'il y a probablement des formes qui sont ce qu'on appelle aussi symptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui sont infectées, qui présentent quelques symptômes, qui cèdent assez rapidement, mais qui sont le reflet d'infections finalement pas graves. Et lorsqu'on a cette vision un petit peu plus large de ce qu'est la réalité de l'épidémie de coronavirus, eh bien on voit que finalement, si on ajuste les chiffres à ce que doit être la réalité de l'ensemble de ces panels d'infections, de très graves à pas graves, eh bien on augmente de fait le nombre de diagnostics.
Néanmoins, encore beaucoup de zones d'ombre autour de ce virus. Par exemple, il y a des doutes sur la période d'incubation. Est-ce qu'il peut être plus contagieux qu'on ne le pense ?
Plus contagieux qu'on ne le pense, probablement pas. Et pour ce qui est du délai d'incubation, on n'a aujourd'hui pas de données suffisamment robustes pour dire que ce que l'on a estimé aujourd'hui être la période d'incubation moyenne, c'est-à-dire entre 2 et 12 jours, que ceci ait vraiment changé par rapport au nouveau jeu de données que l'on a.
Juste une toute dernière question, Bruno Lina, très rapidement. On a appris hier qu'un couple de Chinois qui était hospitalisé en France a pu sortir. C'est encourageant, c'est intéressant aussi pour les chercheurs français de voir des patients qui guérissent de ce virus.
Ah ben quand même, l'immense majorité des gens vont guérir de ce virus et ce qui est très bien, c'est qu'effectivement on a une guérison à la fois clinique et biologique de ces patients. Ils sont sortis parce qu'ils n'ont plus de virus et ils ont éliminé le virus, leur système immunitaire l'a complètement éradiqué. D'autres patients français vont bientôt sortir aussi, donc ça permet de voir qu'on est capable de prendre en charge cette maladie.
Merci beaucoup Bruno Lina, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, professeur de virologie à Lyon et chercheur au sein du CIRIS et le Centre international de recherche en infectiologie.
Et on apprend d'ailleurs qu'un troisième patient est sorti de l'hôpital, on l'apprend ce soir, un Bordelais d'origine chinoise. Il avait été le premier cas détecté en France. Aujourd'hui, les 27 ministres européens de la Santé se sont réunis à Bruxelles pour coordonner leurs actions. Une commande groupée d'équipements de protection va être lancée.
Sur le dossier des retraites maintenant, bien, ça n'avance pas beaucoup. Nouvelle réunion de négociation aujourd'hui à Matignon entre gouvernement et syndicats et toujours pas de consensus sur la prise en compte de la pénibilité.
En revanche, il y a une mesure qui a été annoncée. Olivier Samin, bonsoir.
Bonsoir Sébastien.
Ça concerne le mode de calcul. On appelle ça la clause à l'italienne. Elle avait déjà été actée pour les régimes spéciaux, mais elle sera étendue à tous, y compris dans le privé. Expliquez-nous. En quoi consiste cette clause à l'italienne ?
Alors le sujet concerne tous ceux qui sont nés après 1975 et dont la carrière va chevaucher les deux systèmes de retraite. L'actuel système, où les droits à la retraite se calculent en trimestre ou sur les 6 derniers mois si vous êtes fonctionnaire, et le futur système qui se calculera, on le sait, en points. La clause à l'italienne consiste à calculer vos droits acquis avant le 1er janvier 2025, donc dans l'ancien système, non pas au moment de la bascule de 2025, mais au moment où vous partirez à la retraite, par exemple en 2037, 2038 ou plus tard. Et ce calcul se fera comme si la règle des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois s'était appliquée jusqu'au bout de votre activité professionnelle. Pour les personnes concernées, c'est plus avantageux que la règle prévue initialement dans le rapport de Levoy, qui proposait que, pour les fonctionnaires par exemple, on s'appuie sur les 6 derniers mois que vous avez effectués avant la bascule de 2025, sachant que ces 6 derniers mois se situeront au milieu de votre carrière et que votre salaire sur cette période ne sera pas aussi élevé que celui que vous toucherez réellement lors des 6 derniers mois de votre activité professionnelle. Voilà pourquoi la mesure qui concernera, on le rappelle, tout le monde, salariés du public et du privé, a été bien accueilli par l'ensemble des syndicats.
Voilà, Olivier Samin du service économie. C'est compliqué.
C'est compliqué,
mais
hein, la clause
ce qu'on
italienne.
Comprend, c'est que c'est une concession et que c'est avantageux pour nous.
C'est ça.
Voilà, on va conclure.
C'est essentiel, au fond.
En tout cas, ça continue de grincer dans la majorité. Ce soir, 5 députés de l'aile gauche de l'REM déplorent des avancées insuffisantes dans les négociations.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Debout face au jury, à quoi va ressembler le futur grand oral du bac et risque-t-il d'avantager certains élèves? Les questions et les réponses, c'est dans un instant.
Et puis l'hommage aux victimes de Furiani, plus aucun match de football désormais le 5 mai.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ah là là, cette épreuve du bac, ce nouveau bac est sans doute la plus marquante, les détails du futur grand oral qui va faire mal. Hein,
oui,
on
debout,
peut dire, ont été dévoilés.
Oui, debout et sans notes, ça sera pire que pendant le journal, face à un jury. À 17 ou 18 ans, on peut imaginer que ça puisse être impressionnant quand même et ça suscite des interrogations. Bonsoir Victor Delorme.
Bonsoir.
Parce que ce sera un gros coefficient, cet
oral. Oui,
cet oral
de 20 minutes sera crédité d'un coefficient 10. C'est plus que la philosophie, coefficient 8, et un peu moins que les deux épreuves de spécialité, elles-mêmes créditées d'un coefficient de 16. Ce grand oral, c'est une nouvelle pierre de la réforme du baccalauréat voulue par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et une nouvelle fois, les critiques pleuvent. La principale, c'est l'inégalité que cet oral pourrait créer entre les élèves. Tout le monde n'a pas les mêmes facilités à l'oral. Et pour Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU, les professeurs vont avoir beaucoup de mal à préparer leurs élèves.
On voit bien qu'on a des programmes qui sont extrêmement chargés depuis la réforme et qu'il y a peu de temps possible pour entraîner, habituer les élèves à la prise de parole et à une prise de parole qui soit construite, argumentée, claire.
Alors, l'autre critique, c'est cette obligation de faire passer cet oral aux candidats de terminale debout et sans notes, vous l'avez dit. Ça va déstabiliser de très nombreux élèves, estiment les syndicats. Et ça va pousser les autres à recracher un exposé par cœur. Ces oraux très contestés, vous l'aurez compris, débuteront lors de la session du bac 2021, c'est-à-dire l'année prochaine.
Les précisions de Victor Delorme du service Société d'Europe 1.
Une épreuve qui n'est pas conçue pour faire échouer les élèves. Hein. Il est droit dans ses bottes, Jean-Michel Blanquer, de fait. L'Australie qui entrevoit la fin d'un terrible été, tous les incendies sont enfin maîtrisés.
Hein. Oui, car après la sécheresse, le pays a connu ces derniers jours les plus fortes précipitations de ces 30 dernières années. Et puis en Grande-Bretagne, c'est un poids lourd qui a claqué la porte du gouvernement de Boris Johnson. Son ministre des Finances, Sajid Javid, il démissionne visiblement en raison de désaccords sur le budget. Premier remaniement depuis le Brexit qui pourrait ouvrir la voie à un vaste plan de soutien à l'économie britannique.
C'était le 5 mai 1992 en Corse, scène d'horreur en plein match au stade de Furiani près de Bastia lorsqu'une tribune s'effondre.
18 morts ce jour-là et plus de 2300 blessés. Et aujourd'hui, un vote à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Si le Sénat le confirme, plus aucun match de football professionnel ne sera plus jamais joué en France. À cette date du 5 mai, c'est ce que réclamait depuis très longtemps le collectif des victimes que préside Josefa Giudicelli.
C'est une grande satisfaction, un soulagement. Enfin, on va pouvoir commémorer la tragédie de Furiani comme il se doit. Rien n'a été facile, bien au contraire. On s'est heurté à des murs par rapport aux instances du football. Mais voilà, aujourd'hui, la représentation nationale nous a enfin entendus. On s'est toujours battu et on a toujours défendu la mémoire de ces victimes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement. Enfin, on va pouvoir être apaisé. On nous a entendus. C'est très important.
La présidente du collectif des victimes de Furiani, jointe par Christophe Lamar. L'actualité sportive du jour se joue en Italie, début des championnats du monde de biathlon. Et ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Français, hein, qui finissent 7e du relais mixte, victoire de la Norvège. On y reviendra à 19h.